Et vous savez que quand on regarde un peu l'histoire des cultures, on voit que toutes les situations commencent en gros par la même littérature qui est celle de l'épopée. L'épopée, c'est quoi? C'est le récit des grandes actions. Vous en avez en Inde, vous en avez en Grèce, vous en avez la pays scandinave, vous en avez au Japon. Vous en avez aussi la France, enfin la France avant la France, chanson de geste, n'est-ce pas? Roland à Roncevaux, ça c'est de l'action. Ça se voit. Vous savez que la Chine, cette grande culture qui n'a pas d'épopée. Il y a tardivement du roman, souvent d'ailleurs, enfin, l'influence étrangère. Pas d'épopée, non pas qu'on l'ait perdue, parce qu'elle n'a pas été conçue. Cela nous fait réfléchir justement sur ce qui peut être la source de l'efficacité. Si ce n'est plus l'action qui est répondant au plan, si ce n'est plus elle qui est porteuse d'efficacité. Une anecdote que j'aime à reprendre à cet égard, c'est celle qu'on lit dans le Malthus. Après, je me promène un peu dans les références chinoises. Dans le Malthus, qui évoque cette situation d'un paysan qui rentre le soir chez lui et qui dit à ses enfants « Aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé, j'ai tiré sur les pousses de mon champ. Je veux que ça pousse, je tire sur les pousses. » Évidemment, c'est fatigant. Et quand les enfants, le soir, vont voir le champ, tout est desséché. Malthus nous dit, voilà, il y a deux choses à ne pas faire. L'une, qui est, je veux que ça pousse, je tire sur la pousse. C'est-à-dire que je veux, en fait, et je force la situation. Puisque la poussée de la plante, elle est dans la situation. C'est un potentiel de situation. C'est la graine qui est dans la terre et qui ne demande qu'à pousser. Évidemment, si je tire sur la pousse, par mon désir, par mon plan, par mon projet, je force la poussée, et donc, évidemment, je produis du contre-effet. L'autre attitude, ce serait de rester au bord du champ et de regarder pousser. J'attends que ça pousse. Malthus nous dit, il ne faut faire ni l'un ni l'autre. Ni forcer la poussée, en tirant sur les pousses, en tirant directement sur les pousses, comme dit Malthus, ni non plus regarder passivement pousser. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ce que tout paysan sait, il faut biner, il faut sarcler au pied de la pousse. Tous les jours, un petit coup de bêche qui fait que le potentiel situation de la poussée soit favorisé. Vous savez que sans faire d'anthropologie sommaire, si on met un peu en contraste les grandes cultures, on voit bien qu'il y a des cultures nomades et des cultures d'agriculteurs. Eh bien, les nomades, ils sont sur les confins en Chine. Ils sont du côté à l'ouest, n'est-ce pas, turbulents souvent, mais toujours, et donc tentés d'aller dans la plaine chinoise, mais grâce au potentiel de la situation chinoise, prêts à se laisser siniser. Mais la Chine n'est pas un pays de nomades, pas un pays d'éleveurs, ce qui pour nous renvoie au contexte hébraïque. Celui du troupeau, du pasteur qui conduit son troupeau, qui le conduit quelque part vers un but, une terre promise, qui parle à son troupeau aussi. Non, la Chine n'est pas dans ce contexte-là, pas dans le contexte du pasteur, du troupeau, mais dans le contexte de l'agriculteur, la poussée de la plante. La Chine n'a cessé de pousser, de penser ce qu'était la poussée de la plante, qui est bien sûr une transformation silencieuse. Et puisque vous avez eu la bonne idée de mettre ça en titre à cette rencontre, eh bien oui, la transformation silencieuse, c'est bien ce que fait la nature continuellement. Elle ne fait que ça. On ne voit pas le blé pousser, mais on voit quand il est mûr et qu'il faut le couper. Je dirais qu'aujourd'hui, le moment chinois, c'est justement, eh bien, le potentiel de situation devient visible, n'est-ce pas ? Et on voit que quelque chose est mûr en Chine. Alors, je crois qu'il y a là quelque chose qui nous fait réfléchir, parce que on peut opposer ainsi action et transformation. L'action est toujours locale. Locale et momentanée, même si le moment dure longtemps, et elle renvoie à un sujet, sujet d'action, qui peut être pluriel. Donc, l'action se voit. On voit les hommes agir. C'est pour ça qu'on peut en faire un récit, une épopée. La transformation, à l'inverse, n'est pas locale, mais toujours globale. C'est l'ensemble qui se transforme. En même temps, la transformation se fait toujours dans la durée. Il faut un déroulement, une progression. Et en même temps, la transformation, elle est toujours dans un rapport de facteurs entre eux. Donc la transformation ne se voit pas. C'est pour ça qu'on l'a dit silencieuse. Elle ne se voit pas. On ne voit pas le blé mûrir, mais on voit quand il est mûr et qu'il faut le couper. Et je crois que notre raison européenne est assez malhabile ou maladroite à cerner les transformations silencieuses. Voyez par exemple le réchauffement climatique. C'est à l'évidence une transformation silencieuse. Parce que c'est global, parce que c'est dans la durée, parce que ça met en relation une infinité de facteurs, parce que ça ne se voit pas, mais qu'on voit les résultats. On voit que 5 ans plus tard, les glaciers ont fondu, ou disons qu'il fait plus chaud. Mais qu'est-ce que c'est que le relief si ce n'est la transformation silencieuse. Qu'est-ce que c'est que vieillir, si c'est une transformation silencieuse, n'est-ce pas ? Parce que c'est tout de nous qui vieillit. Et comme c'est tout, ça ne se voit pas. Parce que c'est tout, c'est dans la durée, ça ne se voit pas. Je crois qu'il y a une fécondité à cette pensée de la transformation silencieuse, et elle me paraît importante pour comprendre ce qui est l'évolution de la Chine aujourd'hui. Bon, je remarquerai que, dans la façon même que nous avons aujourd'hui d'écrire l'histoire en Europe, je pense notamment à la grande tradition de l'école des Annales et l'école de Brodel, nous avions une façon beaucoup plus événementielle de construire l'histoire précédemment. C'est pas, l'histoire de France, on la racontait en date, en événements, en guerre, en traité, en roi qui monte sur le trône ou qui en descende. Bref, ce qui fait date. Et on s'est rendu compte finalement que, ah non, l'histoire c'est pas seulement ça, ou c'est même pas vraiment ça. Que quand Brodel écrit, disons, sur l'avènement du capitalisme en Europe, eh ben c'est une transformation silencieuse. Il n'y a pas de date, il n'y a rien de localisable, c'est du global, c'est du continu, c'est une infinité de facteurs en relation entre eux. Donc ça ne se voit pas, mais on voit les résultats quand, disons, la révolution industrielle et capitaliste eh bien, est advenue. Donc je vois que nous avons cette réflexion-là récemment dans la pensée européenne, alors qu'elle correspond à une réflexion chinoise classique qu'on voit notamment à l'œuvre dans la façon dont les Chinois ont conçu leur historiographie. Mais si je me tourne maintenant vers la Chine d'aujourd'hui, je dirais qu'en prenant un peu la suite de ce qui a été dit en commençant, qu'au fond, ce qui s'est passé depuis 1976 me semble ressembler de très près à une transformation silencieuse, effectivement. Et je dirais comme ça que Deng Xiaoping est le grand transformateur silencieux de la Chine. On l'appelle le petit timonier. Le petit timonier, enfin, en différence avec le grand timonier, et si l'on prend effectivement la Chine en 1976, on voit bien une Chine qui est dans une difficulté historique majeure. Et si l'on compare l'évolution de la Chine à celle de l'URSS devenant Russie, on voit ce qui fait différence. C'est que du point de vue de l'URSS, et de, en général des régimes communistes, ils n'ont pu, disons, changer que par révolution interne, c'est-à-dire par rupture dans leur propre histoire. Du côté soviétique, on le sait bien, le 20e congrès, et puis la décrochivisation, la perestroïka, etc., etc. Rupture, 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 même si, bien sûr, par-dessous, la continuité ne cesse de travailler. Si je me tourne du côté, et je sais bien que les partis communistes aujourd'hui, soit sont, disons, ont abandonné leur structure, soit sont momifiés. Je crois que la Chine présente un cas à part, et qui est important. Puisque du côté chinois, on a affaire à une transformation. Le Parti communiste reste au pouvoir, mais il s'est transformé. L'institution, si j'ose dire, les rouages politiques chinois se sont maintenus, mais en se transformant. Même, voyez le sens, le symbole plutôt, de ce que représente Mao aujourd'hui en Chine, s'est transformé. Ce n'est plus le Mao leader du tiers-monde, c'est plus Mao, disons, figure de la révolution, c'est le Mao fondateur d'empire. Mais il y a transformation. Et la figure reste comme ça, dans son importance, même si le sens s'en est progressivement modifié, et quand je dis progressivement, c'est-à-dire sans que ce soit annoncé, dans une sorte de transformation continue, graduelle, globale, qui fait qu'il n'y a pas de coupure, marquée. Il me semble donc que c'est ça à quoi on assiste aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a eu cette transformation progressive, silencieuse, sans rupture importante. Vous voyez par exemple le Parti communiste chinois qui s'est transformé. Il s'est transformé parce que en 1976, c'était un parti de vétérans de la longue marche, de révolutionnaires, de doctrine, doctrinaire. Alors que maintenant, nous avons des administrateurs, nous avons au fond des gestionnaires qui tous sont allés dans les universités étrangères, qui donc ont appris nos modes de travail, notamment de planification, notamment de modélisation, et n'ont plus rien à voir, en fait, avec les idéologues de naguère. transformation silencieuse. Et je crois que nous sommes au moment, aujourd'hui, où cette transformation silencieuse a produit tellement d'effets que nous la voyons maintenant paraître, n'est-ce pas ? Que nous voyons le résultat, ou si j'ose dire, le blé mûr, c'est-à-dire ce potentiel de situation qui s'impose et qui alors provoque en Europe une sorte de d'étonnement, voire d'apeurement, alors qu'il s'agit en fait d'une transformation dont on peut très bien suivre la progression. Je voudrais par rapport à cela en tirer quelques remarques de, non pas de conclusion parce que le sujet est vraiment trop vaste, mais disons de réflexion. D'abord, pour ce qui est de la gestion en Chine, il me semble que débarquer en Chine avec seulement des plans en tête n'est pas très opportun. Je pense qu'il faut mieux commencer à débarquer en prenant pied, en commençant à se créer un peu de potentiel, c'est-à-dire commencer à faire des choses, s'y faire reconnaître, commencer à engager du processus, bref, commencer à nouer ce qu'on appelle en chemin des termes d'amitié, hein, c'est-à-dire au fond, commencer à paraître fiable et que progressivement, des choses puissent être nouées. Vous savez ce qu'on appelle, on me dit souvent, mais... nos interlocuteurs chinois ne sont pas suffisamment sincères et cela crée une difficulté dans notre rapport entre partenaires. Je réponds, qu'appelons-nous sincérité ou plutôt ne faut-il pas réfléchir à nos propres notions ? Et il me semble qu'en Chine, il ne s'agit pas seulement ou peut-être moins de dire ce qu'on pense que de tenir ce qu'on dit. C'est ça, être fiable. Et à cette sorte de grand mythe de la sincérité tel que l'Europe l'a promu, et qui est d'ailleurs magnifique, je mettrai en regard cette capacité à créer de la fiabilité. Et la fiabilité, c'est justement ça. C'est une sorte de transformation silencieuse, progressive, qui fait que, eh bien, progressivement, on n'a même plus besoin de signer des contrats. Il y a une sorte de complicité, de connivence, quelque chose qui devient facile, qui n'est plus héroïque, et qui fait que cela peut devenir sans forcer. Mais je crois qu'il y a autre chose à prendre en compte, qui est qu'il me semble qu'une des grandes ressources de la Chine aujourd'hui, c'est qu'elle dispose des deux registres. Nos amis chinois ont appris à faire comme nous. Ils ont appris à modéliser. Ils ont appris à planifier. Parce qu'évidemment, la Chine, quand elle a été conquise par la science européenne, a dû emprunter à l'Europe. Ça s'est fait, vous savez, à la fin du 19e siècle, au début du 20e, la Chine a emprunté le modèle scientifique européen, cette nouvelle science qui n'était advenue qu'en Europe, la physique causaliste, mécaniste, newtonienne, et puis, et ses effets évidemment techniques, et puis a emprunté un modèle du politique. Un modèle du politique était le modèle de la révolution. Puisqu'il n'y a pas dans la pensée chinoise de pensée de la révolution. On n'a que des transformations. Et le mot qui a servi à traduire révolution en chinois, ge ming, coupure du mandat, n'est pas du tout la révolution au sens où nous l'avons conçue en Europe, à savoir, eh bien justement, modéliser, c'est-à-dire tracer une forme idéale de nos rapports politiques et sociaux pour ensuite l'appliquer, quitte à ce que ce soit par la force ou la violence, et l'imposer. Non. Vous savez bien qu'en Chine, quand une dynastie sombrait, on l'a, remplacée par une autre, mais qui refaisait la même chose, qui resterait les rites, qui resterait la morale, bref, qui reprenait les choses comme avant, et qui rétablissait la grande régulation du monde. Donc la Chine a emprunté à l'Occident une modélisation scientifique, une modélisation politique. Mao a été le grand adaptateur de la transformation, de la modélisation européenne politique, de la révolution à la réalité sociale de la Chine, pays de paysans. Et donc, quand nous... aujourd'hui, nous gérons des relations, des situations avec nos amis chinois, nous nous rendons compte qu'ils savent faire comme nous. La question, c'est, est-ce que nous savons faire comme eux ? Et il me semble qu'il y a une certaine dissymétrie aujourd'hui entre les deux côtés. C'est-à-dire qu'au fond, nos amis chinois savent modéliser comme nous, mais nous ne savons peut-être pas percevoir et gérer les transformations silencieuses. D'où une certaine dissymétrie et donc aussi un certain désavantage. Ce qui me fait penser que comment concevoir aujourd'hui le rapport des cultures entre Chine et Occident ? Il y a un terme que je n'ai pas employé, en évoquant cette question, c'est celui de différence. Parce que je ne crois pas qu'on puisse parler du rapport des cultures en termes de différence. Plutôt, je trouve ça inintéressant et de peu de profit. Parce que différence renvoie à identité. Et qu'une culture ne peut pas se cerner du point de vue d'une identité. Et là, j'insiste là-dessus parce que rien n'est pire à mon sens que tout ce qui serait une sorte de simplification ou de schématisation de la pensée chinoise ou de la pensée européenne qui tendrait à en faire une sorte de monde, n'est-ce pas ? Monde de la pensée chinoise, monde de la pensée européenne, comme des mondes clos, et qui auraient chacun leur identité propre. Non, toute culture ne cesse de se transformer. Toute culture ne cesse de d'être en variation. Donc je ne crois pas qu'on puisse aborder la question culturelle du point de vue de l'identité, encore moins de l'identitaire. Et donc je ne pense pas que la notion de différence soit vraiment opportune. Je parlerai plutôt d'écart. D'écart. Et il me semble qu'il y a effectivement des écarts entre pensée chinoise et pensée européenne, l'écart étant ce qui nous fait paraître d'autres possibles de la pensée. Et donc faisant apparaître les cultures non pas comme des spécificités liées à des identités, mais les cultures étant comme des ressources, comme des fécondités. Je pense que la pensée grecque n'a cessé de développer des ressources comme celle de la modélisation, et dont on voit notamment l'effet dans l'invention de la science, cette modélisation qui, de Platon à Archimède, d'Archimède à Galilée, a permis effectivement d'élaborer, d'inventer une forme de science dont on voit aujourd'hui, dont tout le monde, disons, contemporain, connaît les effets. Mais je crois qu'il y a d'autres ressources possibles. Et que s'intéresser à la pensée chinoise, c'est justement être sensible à d'autres ressources possibles de la pensée. Donc faire travailler ces écarts, c'est justement valoriser ces ressources, ces ressources d'intelligibilité. Et c'est là-dessus, puisque je vois qu'on me fait signe qu'il est le temps de finir, je voudrais conclure là-dessus, c'est-à-dire ne pas conclure, c'est-à-dire justement attirer votre attention sur ce qui me paraît un danger. Ce serait de traiter la Chine en termes du même ou de l'autre, n'est-ce pas ? D'enfermer la Chine dans une spécificité ou de la ramener à un tout commun, tout est pareil, tout se ressemble. Je crois qu'il faut éviter deux choses aujourd'hui. Ce que j'appellerais d'un côté l'universalisme facile et de l'autre le relativisme paresseux. L'universalisme facile qui projette sa vision du monde sur le reste du monde en pensant qu'elle va de soi, sans donc la réinterroger, qui est une sorte d'humanisme un peu mou, qui croit qu'il possède d'emblée l'universalité. Et puis on regarde aussi bien ce qu'il y a. Il y a la tentation culturaliste, où chaque culture se referme dans sa spécificité, en croyant, disons, posséder une identité. Personnellement, j'invite à se défier et de l'un et de l'autre, et à considérer la diversité des cultures comme autant de ressources à exploiter. Et je pense que c'est la chance même de notre génération que de pouvoir pour la première fois circuler entre des cultures diverses de façon à exploiter, c'est-à-dire à tirer parti de leurs ressources. Parce qu'il y a un plan commun qui est celui de l'intelligible. Je pense que tout ce qu'on lit dans la pensée chinoise est intelligible. C'est pour ça que je récute toute façon de concevoir la pensée chinoise sur le mode du mystique ou sur le mode de l'irrationnel. Parce que le mystique et l'irrationnel, ce sont des choses européennes. Et quand vous pensez la culture chinoise en termes de mystique et d'irrationnel, vous ne faites que renverser vos propres catégories, donc vous restez chez vous. Je crois qu'au contraire, il faut, et c'est ça qui est intéressant quand on entre dans la pensée chinoise, c'est qu'on est amené à décatégoriser pour recatégoriser. C'est-à-dire, on est amené à remettre sa raison en chantier. On est amené à réinterroger les partis pris implicites de notre raison, non pas pour y renoncer, mais pour la réactiver, pour lui ouvrir de nouvelles possibilités. Je crois qu'effectivement, face à ce qu'on présente souvent comme étant une menace de la mondialisation, je vous dirais que la mondialisation a commencé non pas il y a 20 ans, mais elle a commencé à la fin du 19e siècle, en tant que mondialisation théorique, quand les dernières grandes cultures, comme la chinoise, sont passées sous les catégories européennes. C'est là qu'a commencé la mondialisation. Mais est-ce que les catégories européennes suffisent à rendre compte de toute la diversité culturelle du monde? Certainement pas. Et donc il me semble qu'il y a une chance, sur le revers, disons, de ce que la mondialisation peut présenter d'inquiétant, ce serait de considérer que justement nous avons la chance aujourd'hui de pouvoir circuler entre des intelligibilités diverses de façon à en tirer parti, comme entre modélisation et maturation. Je pense que mon stratège, au fond, fait les deux. À la fois, il planifie, il donne des buts, et en même temps, il fait mûrir de façon à tirer parti de la situation. Il s'agit pour moi que d'un exemple pour montrer qu'au fond, nous avons une chance aujourd'hui qui est de remettre en chantier notre intelligence. Je vous remercie de votre patience.